siècle avait été marqué par deux choses. Premièrement, la conversion de l'Empire au christianisme. Le christianisme devient religion d'État, donc ce qui change tout à fait les rapports entre l'Église et l'État. Et puis deuxièmement, la paix retrouvée, l'absence des persécutions, va faire en sorte que l'Église va s'engager dans une réflexion théologique profonde, notamment en ce qui concerne la christologie. Et ce sera le Concile de Nicée en particulier, la grande formulation christologique, la définition de la Trinité. Dans ce domaine-là, le 5e siècle va être la poursuite du travail théologique qui a été amorcé au 4e. Et la grande intuition de Nicée, donc de l'unité plurielle, si j'ose dire, de la divinité, va demander à être précisée. Et ce seront l'œuvre de deux autres conciles extrêmement importants, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine. Ce sont là des conciles qui vont avoir une importance extrême, moindre que le concile de Nicée, mais qui vont poursuivre et achever l'œuvre qui a été entreprise à Nicée. En effet, le concile de Nicée, qui en principe met fin à l'arianisme, ça marche là ton truc ?
Oui.
Le concile de Nicée qui met fin à l'arianisme n'a pas répondu à toutes les questions. Les questions christologiques. Il y a quelque chose à part ?
Je demandais les deux conciles, c'était quoi ?
Éphèse et Chalcédoine. Mais on y reviendra. Ça, c'est juste une introduction générale. Donc, le concile de Nicée, qui a paré au plus pressé, qui a défini la nature divine du Fils par rapport au Père, n'a pas répondu à tous les problèmes qui concernent la personne de Jésus. Et en Orient en particulier, au 5e siècle, à la fin du 4e siècle et au 5e siècle, on continue à s'interroger et à réfléchir sur la personne de Jésus. Il est maintenant clairement établi que Jésus est une personne d'essence divine. Mis à part quelques sectes ariennes qui continuent à subsister ça et là, plus ou moins clandestinement, et qui continueront à exister jusqu'au 9e siècle, y compris après l'invasion islamique, et d'ailleurs qui vont avoir une influence sur l'islam, on aura l'occasion de le revoir. Mis à part ces sectes-là, la divinité du Christ est maintenant un fait bien établi dans l'Église. Seulement maintenant se pose un autre problème. Si le Fils est Dieu, comme maintenant c'est clairement établi, est-ce qu'il est aussi homme ? Et comment est-il homme tout en étant Dieu ? Comment s'articulent l'humain et le divin dans la personne du Christ ? Voilà les questions qui restent en suspens et que le Concile de Nicée n'a pas résolues. Le Concile de Nicée a dit uniquement le Christ est le Fils de Dieu. Il est d'essence divine, il est de nature divine. Alors la question se pose, est-ce que tout en étant nature divine, il est aussi de nature humaine ? Et comment peut-il être à la fois humain et divin ? Voilà en gros le problème qui se pose devant les théologiens du 5e siècle. Et le problème va être posé d'abord par les théologiens alexandrins. Les théologiens alexandrins sont en effet les héritiers de l'école d'Origène. Origène, le grand docteur, que nous avons déjà abondamment parlé, que nous avons parlé du 2e siècle, Origène qui maniait l'allégorie avec beaucoup de dextérité, un peu trop d'ailleurs. Et Origène déjà avait posé le principe de la nature divine du Christ. Bien sûr, c'est assez normal, je dirais, c'est assez évident quand on lit le Nouveau Testament. Et Origène avait dit, le Christ est à la fois de nature humaine et de nature divine. Or, après le Concile de Nicée, les successeurs d'Origène à Alexandrie, forts de la déclaration de Nicée, vont mettre à nouveau en avant les enseignements d'Origène sur la double nature du Fils. Et ce faisant, les théologiens alexandrins affirment très fort cette réalité des deux natures inséparables dans le Christ. Voyez-vous, 4e et 5e siècle, c'est la christologie qui est vraiment la question essentielle, point de vue théologique. Et précisément, cette double nature humaine et divine du Fils nous permet, à nous qui sommes des hommes, de participer à la rédemption qu'il a accomplie en tant que Fils de Dieu et en tant que Fils de l'homme. Et nous, qui sommes des êtres de nature humaine, étant adoptés par la rédemption accomplie par le Christ dans la famille de Dieu, nous devenons aussi héritiers de la nature divine qui est la sienne. Et ça, je vous renvoie à ce qu'Origène enseignait. Nous avons vu cela il y a un an ou deux. Nous avons étudié le deuxième siècle. Comment, justement, pour Origène, la rédemption, c'était la possibilité qui nous était donnée en Christ d'accéder à une nature divine. Ça, c'était le point fort de l'enseignement d'Origène sur la rédemption. Et après Nicée, ça ressurgit. Ça ressurgit à Alexandrie. Déjà, Athanase, le grand défenseur de l'orthodoxie, au moment justement de la querelle arienne, qui avait joué un tel rôle dans le concile de Nicée, Athanase avait souligné cette doctrine d'Origène pour appuyer justement la formulation de Nicée. Après Athanase, un de ses successeurs, Cyril d'Alexandrie, 412-444, qui va occuper le trône qu'on appelle le pape d'Alexandrie, le patriarche d'Alexandrie avait le titre de pape, tout comme le patriarche de Rome. Donc Cyril, en 1412, devient pape d'Alexandrie, c'est-à-dire patriarche d'Alexandrie, enseigne cette réalité des deux natures du Christ. Et ce faisant, il s'en prend dans son enseignement, dans ses prédications, contre ceux qui, tout en admettant les deux natures du Christ, les séparent. Et là, on est dans un contexte, évidemment, qui va nous étonner un peu, parce que ce n'est plus du tout notre contexte culturel. Ici, nous sommes dans le contexte culturel grec, byzantin. Et c'est ce qui a donné, justement, d'ailleurs, en français, cette expression des querelles byzantines, c'est-à-dire subtiles. En fait, Alexandrie va se poser la question suivante. Le Christ est à la fois homme et à la fois Dieu, d'accord. Il a à la fois une nature humaine et une nature divine. Mais comment ces deux natures, dans la personne du Christ, s'articulent-elles entre elles? Et certains affirmaient, Alexandrie, il y a dans le Christ deux natures, une nature humaine et une nature divine, qui ne s'interpénètrent pas. Les deux natures sont séparées, sont clairement distinctes dans le Christ. Il y a d'un côté le Fils de Dieu et de l'autre côté le Fils de l'homme. Et entre ces deux natures, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis. Hein. En tout cas, c'est comme ça que le comprenait Cyril d'Alexandrie. Et Cyril d'Alexandrie avait dit, non, les deux natures du Christ, au contraire, s'interpénètrent. On ne peut pas dissocier dans la personne du Christ sa nature divine et sa nature humaine. Ah voilà, le problème était celui-là. Vous allez me dire que vraiment, on peut se demander quel était, si c'était si important que cela. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce mystère? Parce que nous sommes vraiment dans le mystère de la personne même, de Dieu, du Christ. Enfin voilà, c'était la question qui se posait. Et alors, là intervient un autre aspect. Cette question posée par Cyril d'Alexandrie, en fin de compte, va rebondir. Va rebondir d'une manière qui n'est pas très spirituelle, dans un climat, je dirais, quasiment politique. Car souvenons-nous de cette rivalité ancestrale entre les deux grands patriarcats orientaux, Alexandrie d'un côté et Antioche de l'autre. Et alors, il est évident que les Antiochiens ne vont pas rater une si belle occasion d'essayer d'enfoncer les Alexandrins. Et aussitôt que cette question est posée, les Antiochiens vont saisir la balle au bon pour en faire une querelle qui va avoir des répercussions à l'échelon de l'Église universelle tout entière. Si les Alexandrins étaient les successeurs d'Origène, les Antiochiens, eux, souvenons-nous-en, étaient des gens qui étaient attachés, qui étaient contre l'allégorie d'Origène. Ils étaient attachés au littéralisme. Si les Alexandrins maniaient l'allégorie avec beaucoup d'élégance, les Antiochiens, eux, s'en tenaient au sens littéral. En fait, Alexandrie avait plus un esprit grec, tandis que Antioche gardait un certain esprit sémitique. Ce qui fait qu'ils insistaient énormément sur le sens littéral. Et là où Cyril d'Alexandrie déclare « Les deux natures du Christ sont confondues et on ne peut pas les séparer », les Antiochiens vont dire « Les deux natures du Christ sont bien distinctes, bien séparées et elles ne s'interpénètrent pas ». Ils insistent sur le fait que la divinité de Jésus est aussi différente de son humanité. Et à partir de là, ils en tirent des conclusions diamétralement opposées à ça. Et pour cette raison même, il va être nommé patriarche de Constantinople en 407. Pardon. Non, il est mort en 407. Donc il a dû être nommé patriarche d'Antioche, patriarche de Constantinople quelque temps auparavant. Donc un homme qui, alliant à sa piété une grande érudition et donc une grande autorité, va faire contrepoids à Cyril d'Alexandrie. Bon, en 407, il meurt. Et c'est un autre théologien antiochien qui lui succède pour défendre le point de vue d'Antioche contre Alexandrie. C'est un homme qui se nomme Théodore de Cyre. Et Théodore de Cyre insiste sur le fait que les deux natures du Christ sont bien distinctes et qu'elles ne se confondent pas. Alors, entre les deux sièges apostoliques, les positions semblent irréconciliables. Et dans le même temps, eh bien, on va être obligé, bien sûr, de faire appel à l'empereur. Hélas, à nouveau, les fruits néfastes et empoisonnés du système constantinien. Dans les querelles théologiques, l'empereur, en fin de compte, devient l'arbitre suprême. Antioche, à cette époque-là, est un centre extrêmement important sur le plan chrétien. À l'époque de Jean Chrysostome, d'après les sources de l'époque, il y aurait eu 100 000 chrétiens à Antioche, sur une population de 300 000 habitants, c'est-à-dire un tiers de la population était chrétienne. Un habitant d'Antioche sur trois était un chrétien. Il y avait des œuvres sociales très importantes, notamment pour le soutien des pauvres, etc. Et le rayonnement d'Antioche atteignit Jérusalem, par exemple, où l'évêque de Jérusalem, qui se nommait également Cyrille de Jérusalem, a pris parti pour la vision antiochienne de la christologie, c'est-à-dire deux natures qui ne se confondaient pas en Jésus. Il y avait également, ainsi que nous avons l'occasion de le voir, un mouvement monachique très important en Syrie, autour d'Antioche. Et à la fin du IVe siècle, un homme avait fait un travail remarquable, c'était le diacre Éphrem, lequel avait refusé un trône épiscopal qui lui était offert, parce qu'il avait voulu garder la simplicité évangélique, et il avait surtout consacré une grande partie de sa vie à traduire la Bible en syriaque. Le syriaque, c'était un dialecte de l'ancienne langue araméenne qui était la langue de la Syrie, et qui était encore parlé par une très grande partie de la population de Syrie, une grande partie de la population également du sud de l'Iran, une partie aussi de l'Anatolie parlait le syriaque, on parlait syriaque également en Jérusalem, si bien que il a fallu que ces gens-là puissent avoir la Bible dans leur langue, et c'est l'œuvre d'Éphrem que de traduire justement la Bible en syriaque. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette remarquable traduction de la Bible, qui encore aujourd'hui est une des versions de base quand on étudie les versions anciennes. Tu peux comme la Vulgate latine, traduite par Jérôme, n'est-ce pas ? Éphrem sera le Vulgate syriaque, et il va traduire ce qu'on appelle la Bible Peshitto, c'est-à-dire simple, n'est-ce pas, dans un langage simple, c'est un peu comme la Vulgate, si vous voulez. Il a traduit la Bible dans le langage le plus simple possible, de façon à ce que même les plus simples, parmi les plus simples au milieu du peuple, puissent comprendre la parole de Dieu. Éphrem était un homme aussi d'une grande piété. Il insistait sur l'humilité, il l'avait montré lui-même qu'il était un homme humble, alors qu'on lui avait offert un poste d'évêque, il avait refusé, il avait voulu rester simple diacre. Et il insistait aussi sur une vie de sanctification, sur une vie de repentance, à l'exemple du Christ, à nouveau. D'un autre côté, donc, il y avait Alexandrie. Et Alexandrie, où la situation n'était pas rose. L'empereur, qui se nommait Théodose II, il y avait eu un premier Théodose, qui avait succédé à Constance. Or, ce Théodose, à la fin du IVe siècle, qui était redevenu chrétien après l'intermède, le court intermède de Julien, l'apostat, que nous avons vu, Théodose Ier, était l'empereur qui avait fait du christianisme la religion d'État. Alors, il faut faire très attention parce qu'on fait toujours une confusion. On dit Constantin a fait du christianisme la religion d'État. Non! Constantin a fait du christianisme une religion licite, d'illicite qu'elle était auparavant parmi les religions de l'Empire romain. Il a donné à la religion chrétienne l'égalité des droits, mais comme la religion chrétienne était la religion qui avait le vent en poupe, et comme le fait de la rendre religion licite faisait que des foules se sont précipitées en Église, elle est devenue rapidement la religion majoritaire. Mais les autres religions païennes continuaient à avoir droit de citer dans l'Empire, pendant tout le règne de Constantin, le règne de Constance et le règne de Julien. C'est Théodose Ier qui va faire du christianisme la religion officielle et qui va commencer à persécuter les religions païennes. C'est étonnant. que l'Église chrétienne, qui était à peine sortie elle-même d'un cycle de persécution, se soit prêtée à cela. Mais le fait est que, de persécuter, l'Église chrétienne est très vite devenue persécutrice, par l'intermédiaire de Théodose. Et c'est ainsi que le patriarche qui a précédé Cyrille, qui se nommait Théophile, à Alexandrie, a approuvé cette mise au ban de la religion païenne. Et une persécution, on peut dire, menée par le patriarche d'Alexandrie, a été organisée avec l'aide des pouvoirs politiques contre les païens qui se trouvaient à Alexandrie. Et c'est ainsi que un vieux philosophe païen sera mis à mort, bien qu'étant un vieillard. Tout à fait étonnant. Et en même temps, les Alexandrins vont voir d'un très mauvais œil la nomination de Jean Chrysostome au poste de patriarche de Constantinople. Et ils vont commencer à s'agiter, à tenter de démontrer que Chrysostome est hérétique, puisque croyant en deux natures séparées du Christ. Et en 404, ils obtiennent la déposition de Chrysostome. À Alexandrie, l'Église chrétienne donc triomphe, mais à l'inverse de ce qui se passe à Antioche, l'implantation de l'Église égyptienne reste très superficielle. Une grande majorité de la population égyptienne reste païenne. Et la pénétration en profondeur du christianisme en Égypte mettra beaucoup de temps, à l'inverse de ce qui se passe en Syrie. Et ce n'est en fin de compte qu'à la veille de la conquête musulmane, au 7e siècle, que le christianisme sera à peu près accepté par l'ensemble de la population. Ce qui fait que, d'ailleurs, quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que, à partir de ce moment-là, naît ce que l'on appelle l'Église copte. Ça veut dire égyptienne, tout simplement. Et les 2 ou 3 millions de chrétiens qui subsistent en Égypte musulmane aujourd'hui sont les descendants de ces gens-là. Et alors, à l'image de ce qui se passe à Antioche, à partir de ce moment-là, pour rendre la Bible accessible à ce peuple païen, on va traduire la Bible en vieil égyptien, et le vieil égyptien se dit en égyptien justement copte. Copte veut dire égyptien, tout simplement, en égyptien. Et les versions coptes, les premières versions coptes, qui sont encore aujourd'hui comme la version syriaque Peshitto, parmi les plus vieilles versions du monde, datent de cette période-là. Et vous, il y a ce grand travail de traduction de la Bible qui est fait. La Septante ne suffit plus. Parce que là, le grec est la langue des élites. Mais dans les campagnes, le grec n'est pas compris. Et les chrétiens d'Alexandrie n'ont pas compris jusqu'à ce jour que pour pouvoir faire pénétrer l'Évangile en profondeur dans le pays, il fallait traduire la Bible dans la langue compréhensible, la langue parlée par ces gens-là, la langue vulgaire, comme on disait au Moyen-Âge. Et ce n'est qu'à partir de Théodose II, n'est-ce pas, que l'on va commencer à traduire en vieil égyptien la Bible. Alors, un autre aspect du christianisme alexandrin, c'est que pour pouvoir justement gagner à sa cause les païens, il va adopter des éléments païens nombreux. Il va y avoir un espèce de syncrétisme qui va se créer avec les anciennes divinités païennes. Et or, les divinités païennes en Égypte sont multiples. Il y a bien sûr les divinités grecques, mais ces divinités grecques ont été plus ou moins assimilées avec les anciennes divinités de l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique en particulier. Et c'est ainsi que l'on trouve Zeus, Jupiter, assimilé avec Osiris, et en particulier le culte qui va être un instant pendant plusieurs années, un rival du christianisme à partir du IIe siècle, nous avons l'occasion de le voir, c'est le culte d'Isis. Isis, la déesse mère, assimilée aussi avec Cybèle, des Grecs, etc. Et là, maintenant, il va y avoir une récupération qui va se faire en Égypte. Et on va tout simplement, parfois, christianiser les vieux temples égyptiens. Par exemple, les temples de Karnak et Louxor, qui sont des temples pharaoniques, c'est pas que l'époque de Ramsès II, 18e dynastie, vont devenir des couvents. Il va y avoir des communautés de religieuses qui vont s'installer dans les temples de Karnak et Louxor. Bon, la déesse Isis, depuis l'époque pharaonique, est représentée comme une femme allaitant son enfant. Bon, récupération, c'est la Vierge et l'enfant. Voyez-vous ? Et aujourd'hui, les représentations iconographiques qui datent du Moyen-Âge, ou même de la Renaissance, etc., et qui ont souvent exploité ce thème de la Vierge et l'enfant, la Vierge allaitant l'enfant, eh bien, datent de l'époque ici du 5e siècle en Égypte. Et il est certain que les païens qui se convertissaient ou qui étaient appelés à se convertir au christianisme n'étaient pas du tout dépaysés dans des chapelles qui étaient décorées de cette manière-là, ou tout simplement on s'était contenté de prendre les statues dans les temples des pharaons, dans les tombeaux des pharaons, les amis dans les églises, tout simplement. Alors il est évident que contre ça, les Antiochiens tenaient. Ça passait pas. Et là, ils y voyaient justement une déviation extrêmement grave. Et c'est pourquoi le conflit ici était absolument latent. Alors, le point culminant de cette crise a été atteint lorsque un ami d'Athanase, qui se nommait Apollinaire, pour glorifier la divinité de Jésus, qui avait été mise en évidence par le Concile de Nicée, s'est mis à diminuer son humanité. En disant, en fin de compte, Jésus, c'est vrai, il était homme, mais il était surtout Dieu. Et ce qui est important, c'est qu'il soit Dieu, qu'il soit homme, finalement, ça ne nous intéresse pas. Alors c'est là que les Antiochiens ont dit, mais non, ça ne marche pas. Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Il est autant homme qu'il est Dieu. Et quand il disait, il y a deux natures en Christ qui ne se confondent pas, c'était ça qu'il voulait dire. Jésus est autant homme que Dieu. On ne peut pas privilégier une nature sur l'autre. On ne peut pas dire que Jésus est plus Dieu qu'il n'est homme. Les deux natures sont égales dans la personne de Christ. Et l'occasion de la querelle éclate en 423. Nous avons vu que Chrysostome, originaire d'Antioche, qui avait été nommé patriarche de Constantinople en raison de son rayonnement et sa foi, avait été déposé en 404. Et en 423, c'est un certain Nestor qui se trouvait être patriarche de Constantinople. Nestor est aussi un homme qui est dans la droite ligne de l'église, de l'école d'Antioche. S'il admet bien qu'il y ait deux natures en Jésus, ces deux natures sont juxtaposées les unes aux autres, mais non pas unies. Voilà quelle était sa formule. Deux natures juxtaposées l'une à l'autre, mais non pas unies. Alors immédiatement, contre-attaque de Cyril d'Alexandrie, qui prend à rebrousse-poil les thèses de Nestor, et qui essaie la même manœuvre que celle qu'avait réussi avec Chrysostome, le faire déposer. Mais Nestor se défend et l'empereur Théodose II, en 431, convoque un nouveau concile œcuménique, un deuxième concile œcuménique à Éphèse. C'est le deuxième grand concile œcuménique après Nicée-Constantinople. Et ce concile œcuménique est convoqué à l'occasion d'une prédication de Nestor. où, à la suite de cette prédication, certains représentants de l'école d'Alexandrie lui ont demandé s'il reconnaissait ou non les Alexandrins, le somme de donner une réponse claire à cette question. Marie est-elle, oui ou non, mère de Dieu? Et ils disent, si tu veux être logique avec le concile de Nicée, tu dois dire, Marie est mère de Dieu. Si Jésus est vraiment fils de Dieu, alors Marie est mère de Dieu. En fait, c'était une formule, Théotokos, qui avait déjà été employée par Athanase, lors du concile de Nicée, justement, pour souligner la divinité de Christ jusque dans son incarnation. Et voyez-vous, là, en même temps, c'est là que va naître la mariologie. Bon, elle existait déjà, plus ou moins, mais là, il va y avoir une théologie mariale qui va se développer. Or, paradoxalement, c'était au départ pour glorifier la divinité de Jésus que l'on a, mis l'accent sur Marie. Mais en fin de compte, les conséquences ont été fort différentes de ce que l'on attendait, bien loin de glorifier Marie, bien de glorifier Jésus. Cela justement va glorifier Marie. Alors, avant de convoquer le concile, on demande au pape Célestus de l'époque de trancher. Et vous savez, en fait, c'est politique tout ça. En principe, le pape de Rome était un homme qui était neutre dans ses querelles, qui était en dehors. En fait, il y avait toujours eu des relations étroites entre Rome et Alexandrie. Il ne faut donc pas s'étonner si Célestus tranche en faveur d'Alexandrie contre Nestor. Alors, il ne reste plus à l'empereur, maintenant qu'il a abattu sa dernière carte, que de convoquer le concile œcuménique. En fait, nous avons vu que le concile œcuménique était depuis Nicée, depuis Constantin, l'instance suprême de l'Église. Et c'était l'empereur qui prenait l'initiative de convoquer le concile œcuménique. Constantin l'avait fait à Nicée, Théodose II le fait pour Éphèse. Or, justement, dans tout ce contexte, c'est non seulement la question de la christologie qui est posée, mais c'est aussi la mariologie, ce que je l'ai évoqué tout à l'heure. La mariologie, c'était quelque chose qui existait dans des traditions plus ou moins populaires. Il y avait un culte de la Vierge qui s'était établi au fil des temps. On pourrait, semble-t-il, bien sûr les catholiques insistent fort là-dessus, on pourrait retrouver déjà des traces d'un culte marial dès le IIe siècle. Bon, ça peut se discuter, enfin c'est possible aussi, c'est difficile de dire. En tout cas, il est certain que le culte marial, les prémices du culte marial sont apparues dans des cercles marginaux de l'Église, vraisemblablement assez tôt. Et la question avait plus ou moins commencé à rebondir aussi au concile de Nicée. Et au concile de Nicée, bien sûr, on avait insisté très fort sur la naissance virginale de Jésus. C'est évident. Pour que Jésus puisse être reconnu comme fils de Dieu, il fallait qu'il ait été conçu du Saint-Esprit. Donc, que la naissance virginale soit un fait bien établi. Jusqu'alors, jusqu'à Éphèse, la naissance virginale, c'était... Marie était considérée comme vierge jusqu'au moment de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Seulement, après Nicée, dans toute cette espèce d'exaltation pour essayer de glorifier la divinité de Jésus, donc autour d'Alexandrie, en même temps, par ricochet, Rome, n'est-ce pas? Mais sous Alexandrie quand même. Oh, mais tu es quand même assez marginalisé dans cette affaire, surtout Alexandrie. On commence à défendre l'idée que Marie était vierge avant la naissance de Jésus, pendant la naissance de Jésus et après la naissance de Jésus, donc la doctrine qui existe encore aujourd'hui dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe, de la virginité perpétuelle de Marie. Ces doctrines venaient surtout des milieux monachiques et ascétiques. C'était déjà une doctrine qu'Ambroise, en Occident, Ambroise de Milan, qui avait été l'homme au contact duquel Augustin s'était converti, Ambroise professait une telle doctrine. Athanase aussi avait fait certaines déclarations qui allaient quelque peu dans le même sens. Et en fait, à partir du 5e siècle, c'est quelque chose qui va être de plus en plus admis. Et à Alexandrie, on fait grand cas notamment de ce que déjà, au 2e siècle, Irénée de Lyon, avait écrit quand il avait comparé Marie et Ève, faisant de Marie la deuxième Ève. Ça n'a pas été plus loin que ça. Irénée n'en avait pas tiré d'autres conclusions. Mais les Alexandrins, eux, en tirent des conclusions. Et ils pensent, vous voyez, nous avons l'autorité d'Irénée lui-même pour défendre justement ce que nous affirmons. Et c'est ainsi que l'expression Théotokos, mère de Dieu, apparaît d'abord en Égypte. Dans un texte de condamnation d'Arius, par Alexandre et par Athanase. Dans le même temps, on a la trace d'une prière à Marie, qui vient d'Égypte aussi, où Marie est qualifiée de mère de Dieu. Et c'est donc en 428 que, d'une manière explicite, Nestor s'élève contre cette expression, qu'il trouve excessive. Non pas que Nestor nie la divinité de Jésus du tout, mais il trouve que affirmer que Marie est mère de Dieu, c'est excessif. Et bien sûr, ce faisant, il a parfaitement raison. Alors, en 429, Cyrille d'Alexandrie envoie à tous les moines, à tous les monastères d'Égypte, une lettre dans laquelle il condamne Nestor pour avoir refusé de reconnaître en Marie la mère de Dieu. Et en 430, l'année suivante, se rassemble à Alexandrie un synode, c'est-à-dire un rassemblement de tous les évêques du pays, sous la direction du patriarche, qui somme Nestor de se rétracter et de reconnaître que Marie est la mère de Dieu. L'année suivante, la crise ayant pris une importance démesurée, est convoqué le concile d'Éphèse pour la Pentecôte de l'année 431. Alors évidemment, tel que les choses se présentent, les Alexandrins ont tout lieu de redouter ce concile. Car Nestor est quand même, ne l'oublions pas, patriarche de Constantinople. C'est l'empereur qui a convoqué le concile, et il y a de fortes chances que, avec l'appui des Antiochiens, qui sont quand même proches de Constantinople, avec l'appui des Arméniens, qui sont invités au concile aussi, et qui, eux, sont dans la mouvance d'Antioche, eh bien, les Alexandrins ont toutes les chances de se trouver en minorité. Et là, on voit à quoi tiennent les choses, à quoi tiennent les conciles. Les Alexandrins, comprenant que il faut faire vite, eh bien, arrivent les premiers à Éphèse. Et ils font en sorte que le président du concile soit élu avant l'arrivée des Antiochiens. Alors, bien entendu, le président du concile, ça va être Cyrille d'Alexandrie. Et Cyrille d'Alexandrie n'a rien de plus pressé que de faire voter un texte qui condamne Nestor à l'exil, en condamnant ses thèses, avant même l'arrivée des défenseurs de Nestor, c'est-à-dire des Antiochiens. Et c'est ainsi que nous avons la déclaration du concile d'Éphèse, 431, ou qui déclare ceci, « Il y a dans le Christ deux natures unies. » Il y a deux natures unies dans le Sauveur que nous confessons, et Marie est la Mère de Dieu. Alors, lorsque les Antiochiens arrivent, tout est réglé. Ils n'ont plus qu'à s'incliner devant le fait accompli. Ils ont beau rager, tempêter, crier, rien n'y fait. La doctrine de deux natures unies dans le Christ devient la doctrine officielle de l'Église, mise sur le même plan que la déclaration de Nicée-Constantinople. Nestor est exilé avec ses partisans, et en particulier, Nestor va s'exiler en Inde, où il va entreprendre, entre parenthèses, un travail d'évangélisation extrêmement important parmi les populations indigènes. Et les partisans de Nestor vont aller jusqu'en Chine, et dès le 5e siècle, il va y avoir une importante évangélisation de l'Inde et de la Chine, avec des réveils très importants qui vont éclater dans ces deux pays, malheureusement sans lendemain. Le christianisme, à cette époque-là, ne s'implantera ni en Inde, ni en Chine, et au bout d'une ou deux générations, les églises vont disparaître. Le travail d'évangélisation de ces hommes sera finalement peu durable. Alors, entre Antioche et Alexandrie, on est au bord de la cassure. Parce que les Antiochiens ne décolèrent pas d'avoir ainsi été joués. Si bien que l'empereur est très ennuyé, parce que dans le fond, ce n'était pas tout à fait ce qu'il cherchait par son concile. Et c'est alors que l'empereur parvient à réconcilier les deux protagonistes en 433, Cyrille d'Alexandrie et Jean, le patriarche d'Antioche, se rassemble. Et finalement, on arrive à une réconciliation sur une formule qui devient la formule officielle de l'Église jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des églises qui acceptent cela, c'est-à-dire la plupart des églises, sauf un certain nombre, nous avons l'occasion de le voir dans un instant, c'est qu'il y a une union hypostasique des deux natures, c'est-à-dire dans une seule personne. Hypostase, c'est une personne en grec. Union hypostasique des deux natures. Les deux natures, la nature divine et la nature humaine, sont unies dans une seule personne. C'est-à-dire que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme, mais qu'il est un. Les deux natures sont une, et voilà la grande formule qui a réconcilié tout le monde, dans l'unité d'un seul sujet. La nature divine et la nature humaine sont une, dans l'unité d'un seul sujet. Et donc en 433, Jean d'Antioche et Cyrille d'Alexandrie signent d'un commun accord cette formule qui réconcilie la chrétienté. Et c'est alors que va se développer le culte de Marie Théotokos. De là datent les icônes où on voit Marie couronnée, etc. Paradoxalement, c'est Juvénal, l'évêque de Jérusalem de cette époque-là, qui introduit le 15 août une fête à Marie. Et cette fête se déroule de la manière suivante. Il y a une grande procession qui part de la ville de Jérusalem pour descendre jusqu'au pied du mont des Oliviers, à l'endroit supposé où serait le tombeau de Marie. Ceux qui étaient avec moi en Israël se souviennent de cette grande église qui est à la droite du jardin des Oliviers. Bon, eh bien c'est là, c'est le tombeau de la Vierge supposé, c'est là que descendaient les grandes processions à partir du 5e siècle. Et la fête de l'Assomption a son origine au 5e siècle, dans ce culte de Marie Théotokos. Et la doctrine de la dormition va naître aussi là. Donc c'est Juvénal, l'évêque de Jérusalem de cette époque-là, qui est le premier à proposer l'idée que Marie s'est ainsi endormie avant d'être enlevée dans son corps au ciel. Seulement, le concile d'Éphèse n'a finalement rien réglé. Affirmer que la nature humaine et la nature divine de Jésus sont une dans un seul sujet, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Et Cyril d'Alexandrie, de retour dans son diocèse, va affirmer que dans le fond, cette formule signifie qu'il existe dans le Christ une unique nature incarnée. Donc on revient finalement au statu quo ante. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là la doctrine officielle de l'Église d'Égypte. Et les églises qui vont suivre cette doctrine, qui est donc l'Église égyptienne et l'Église éthiopienne, avec lesquelles elle est très liée, sont ce que nous, on appelle jusqu'à aujourd'hui les églises monophysites. C'est-à-dire les églises qui n'admettent qu'une seule nature dans le Christ. Jusqu'à aujourd'hui, il existe des églises monophysites. Alors, vous voyez, quand on parle de l'unité de l'Église catholique avant la Réforme, vous voyez ce que ça donne. Et là, c'est qu'un début, vous allez voir. Vous allez voir. Mais n'anticipons pas. Alors, on est obligé de réaffirmer la doctrine à nouveau. Et on met une dernière main à la formule qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui la formule d'Éphèse, mais qui s'est faite quand même depuis 431 sur un certain nombre d'années, que je vous lis. Il existe un seul Dieu parfait et homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, engendré du Père avant les siècles, selon la divinité, donc Nicée, né en ces derniers jours pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, selon l'humanité, consubstantiel au Père, encore une fois, allusion à Nicée, selon l'humanité, car de deux natures, l'union est faite. C'est pourquoi nous affirmons un Christ, un Fils, un Seigneur, en raison de cette union sans confusion, et voyez-vous, c'est là la formule qu'on a ajoutée contre le monophysisme. C'est vrai qu'il y a deux natures unies dans une même personne, mais elles sont unies sans confusion, contrairement à ce qu'affirment les monophysiques. Donc, nous confessons la Sainte Mère, la Sainte Vierge, Mère de Dieu, parce que le Dieu véritable s'est incarné et s'est fait homme, et que dès l'instant de la conception, il s'est uni au temple qu'il avait pris d'elle. Voilà la formule officielle d'Éphèse. Vous voulez que je répète ? Chaque mot est pesé, hein, c'est sûr. Chaque mot est pesé. Nous confessons un seul Dieu, parfait, et homme parfait, composé d'une âme raisonnable et d'un corps. Bon, là, vous voyez, c'est bibliquement hérétique. Hein, parce que une personne, ici nous sommes dans une vision vraiment en grec, bibliquement, une personne, c'est un corps, une âme et un esprit. Donc ici, il y a l'âme raisonnable et un corps. Engendré du Père avant les siècles, selon la divinité. Bon, ça c'est tout à fait bien, c'est orthodoxe. On trouve ça donc dans Nicée. Né dans ces derniers jours pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, selon l'humanité. Donc, Jésus est né avant les siècles du Père. Enfin, il n'est pas né, il est engendré, éternellement engendré, comme disait la formulation de Nicée. Mais dans ces derniers jours, il est né de la Vierge Marie, selon l'humanité, l'incarnation. Donc, nature divine, engendrée du Père avant les siècles, nature humaine, donc née de la Vierge Marie, selon l'humanité. Consubstantiel au Père, formule de Nicée, selon l'humanité, et dans son humanité, même dans son incarnation, il reste de nature divine, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que de deux natures, l'union est faite. C'est pourquoi nous affirmons un Christ, un Fils, un Seigneur, en raison de cette union sans confusion, nous confessons la Sainte Vierge, Mère de Dieu, parce que le Dieu véritable s'est incarné et s'est fait homme, et que dès l'instant de la conception, il s'est uni au temple qu'il avait pris d'elle. Bon, en gros, on peut être d'accord avec cette formule, sauf sur deux points. D'une part, le premier point que j'ai souligné, l'âme raisonnable et le corps. Et deuxièmement, évidemment, sur l'expression « Mère de Dieu ». Même si, dans le contexte, on comprend ce que ça voulait dire, ça veut dire que Marie était mère d'un être de nature divine, c'était une manière de souligner la naissance virginale, affirmer que Marie est mère de Dieu, comme l'avait fort bien vu Nestor, c'est excessif. Et c'est pourquoi on peut être d'accord, en gros, avec l'esprit de la formulation d'Éphèse, mais en tant qu'évangélique, on a tout de même deux réserves sur ces deux points-là. Voilà. Alors, pardon.
C'est la formulation d'Éphèse ou
ça, ça, c'est d'Éphèse. Non, ça c'est la formulation officielle. Officielle. Qui a été plus ou moins retouché, remanié, sur laquelle on s'est mis d'accord en 433, etc., et qui ensuite est fait aujourd'hui, si vous voulez, en principe, cette déclaration-là fait une unanimité dans toute l'Église universelle, c'est-à-dire entre les catholiques, les orthodoxes, les arméniens, les protestants, les anglicans. Voilà. Les seules églises qui ne souscrivent pas à cette formulation-là sont les églises monophysites, c'est-à-dire l'église copte, égyptienne, et l'église éthiopienne. Voilà, ce qu'on appelle les églises monophysites. C'est-à-dire qu'ils n'admettent qu'une seule nature, ou plutôt deux natures confondues, pleinement confondues dans le Christ. Voilà, donc, où on en était, donc, vers les années 30-40 du 5e siècle, dans cette grande controverse christologique qui allait de rebondissement en rebondissement. Et on croyait, avec cette formule, avoir mis le point final au débat, mais ce faisant déjà, l'unité de l'Église était brisée. Toutes les Églises, l'importante chrétienté égyptienne, et celles qui en découlaient, c'est-à-dire l'Église éthiopienne, étaient hors de la communion. Et alors, évidemment, les choses n'allaient pas en rester là. Un nouveau rebondissement allait intervenir, la controverse dite eutychienne, qui allait conduire, 20 ans plus tard, en 451, à un nouveau concile œcuménique, le concile de Chalcédoine, qui allait préciser cette question de l'union des deux natures, mais ce faisant, eh bien, qui allait aussi à nouveau provoquer des nouvelles cassures au sein de l'Église universelle, qui dès cet instant-là n'en avait vraiment pas besoin. Alors, comment apprécier cette querelle monophysite? Eh bien, en fin de compte, si la querelle qui avait tourné autour, justement, de la nature divine du Christ à Nicée-Constantinople était pleinement fondée. Et on peut dire que le concile de Nicée avait fait à ce niveau-là, malgré les circonstances plus ou moins discutables dans lesquelles s'était déroulé le concile, si néanmoins les conclusions étaient des conclusions vraiment bibliques, qui avaient établi donc une formulation qui est valable aujourd'hui parce que vraiment inspirée de la Bible, dressant comme un véritable garde-fou pour la définition de la foi, en sorte que jusqu'à aujourd'hui on peut souscrire pleinement à la formulation de Nicée-Constantinople. La formule d'Éphèse, ou plutôt le concile d'Éphèse, répondait à des questions qui se posaient évidemment à l'époque, mais quand même des questions qui nous semblent énormément dépassées de nos jours. Non pas que les choses soient sans importance, parce que, en fin de compte, il y a eu aussi un certain nombre de garde-fous qui ont été mis là, Mais il est certain qu'on a du mal à entrer un peu dans cette problématique, car nous sommes là devant un mystère. La nature profonde du Christ. Il faut bien reconnaître que la Bible ne nous en dit pas grand-chose. Et que nous sommes beaucoup plus là, dans un domaine beaucoup plus philosophique, que dans un domaine proprement biblique. Ceci dit, on peut quand même, en gros, être d'accord avec la formule d'Éphèse, savoir qu'il y a vraiment en Christ deux natures, et le mérite du Concile d'Éphèse a été de le rappeler contre ceux qui auraient voulu privilégier la nature divine contre la nature humaine, car si effectivement Christ n'est que Dieu, eh bien, nous ne sommes pas sauvés. C'était un petit peu l'inverse, si vous voulez, de l'arianisme, dans lequel Jésus n'était qu'homme. Le Concile d'Éphèse rééquilibrait la formulation dans ce domaine. Et ce que nous avons, nous, à retenir du Concile d'Éphèse, c'est effectivement l'existence de ces deux natures. Christ est aussi autant homme qu'il était Dieu. Et il n'y a pas prédominance d'une nature sur l'autre. Il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Sans que les deux réalités se confondent. Maintenant, évidemment, le problème, si l'on veut rester dans une dimension philosophique, qui à ce niveau-là nous intéresse moins, le problème est de savoir comment ces deux natures qui ne se confondent pas s'articulent. Et ce sera justement le problème que va résoudre le Concile de Chalcédoine, 20 ans plus tard, à la suite de cette controverse éthicienne que nous aurons l'occasion de voir ensemble la prochaine fois. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser sur la question du Concile de Thèse ? Je vais prendre 5 secondes.
Qui c'est qui a fait la dernière formulation du...
C'était déjà plus ou moins... C'était des formulations qui existaient déjà, qui avaient été élaborées à Éphèse, qui a été ensuite plus ou moins remaniée, puis qui a été adoptée. Difficile de dire. Il n'y a pas d'auteur précis. On appelle formule d'Éphèse jusqu'à aujourd'hui.
D'un côté, c'est pour les Alexandrins qui avaient essayé de faire... Et après, en quelque sorte, le texte a été repris.
Oui, parce qu'il y a eu un accord ensuite entre Cyril et Jean.
C'est à ce moment-là que le texte a été...
Il a fait unanimité à ce moment-là. En fait, ce texte-là a été élaboré après la cassure avec les Alexandrins. Il y avait une formule là que les Alexandrins pouvaient accepter. Sur la non-confusion des deux natures. Ça ne pouvait pas accepter. Oui, Patrick, tu veux dire quelque chose ?
Moi, je trouve que la majorité des protestants adoptent cette formule en arrivant
au début. Non, sauf sur les deux points que j'ai dit là.
Ouais. Hein. Donc,
mais la question des deux natures de Christ qui sont égales, ça oui, ça c'est admis par l'ensemble des protestants, ça je crois que c'est biblique. Hein.
Quand même pas Marie-Mère de Dieu.
Ah non, pas Marie-Mère de Dieu. Pas Marie-Mère de Dieu. Mais le fond de la formulation d'Éphèse, quoi.
Il n'y avait que ces deux grands centres, dans le monde chrétien, il n'y avait que ces deux grands centres.
Non, il y a cinq patriarcats. Cinq patriarcats dans le monde byzantin. Il y a Alexandrie, Antioche, Jérusalem, Constantinople et Rome.
En fait, c'est plutôt ces deux-là qui...
Sur le plan théologique, c'est eux qui faisaient la loi. C'est là qu'il y avait les grandes écoles de réflexion théologique, oui. Rome était complètement... Non, Rome n'était pas du tout dans ce genre de réflexion-là, parce que ça, c'est... Rome, c'était l'esprit latin. C'était un esprit tout à fait différent. Là, on est dans un esprit spéculatif grec. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez... Jacques Maury nous disait ça l'autre jour aussi, quand on avait un entretien avec lui. Il nous disait, dans le fond, ces querelles-là, aujourd'hui, elles sont dépassées. Il avait tort, parce que ça reste quand même des questions, malgré tout, fondamentales. Bon, Nicée, c'est sûr que c'est fondamental. Ça aussi, d'une certaine manière. les deux natures de Christ. Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Bon, mais ça, c'est, il faut le maintenir très fort. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Il est autant Dieu qu'il est homme. Ça, oui, ça, là, c'est, ça, ça, c'est absolument biblique. Et ça, on ne peut pas transiger là-dessus. Mais alors, évidemment, les formulations, la manière dont c'est dit, dans la manière dont... etc. C'est sûr que là maintenant, c'est complètement dépassé. Ça, c'est sûr. Pourquoi? On est dans un esprit spéculatif grec. Et ça, les latins, lui, ils étaient en dehors du coup, complètement. D'ailleurs, il y avait à Nicée, il y avait quelques représentants du pape de rang inférieur. Là, il fait ce pareil. Hein. Le pape n'intervenait pas. Il avait tranché contre Nestor quand il avait été pris pour arbitre, mais sans plus. Par contre, ce qui était le propre de la théologie occidentale, donc romaine, etc., c'était tout ce qui était pratique. La question de la rédemption, la question de la foi des œuvres, la prédestination, toutes ces choses-là, avec Augustin, comme on l'a vu la dernière fois, Augustin contre Pélage. Mais c'est un type tout à fait différent de controverse. Là, on est vraiment dans un domaine spéculatif, tandis que en Occident, on est dans un domaine beaucoup plus pratique. Ce qui ne veut pas dire que c'est inutile ni inintéressant ce qu'avaient fait les Grecs. Parce qu'encore une fois, ils ont établi tout de même, mis à part certains excès qu'on a dit là, ils ont quand même établi des choses fondamentales.